enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, nous allons continuer notre étude, mais juste pour débuter, on va regarder Jean chapitre 17, verset 3, qui est vraiment notre texte clé pour la série « Comment connaître le seul vrai Dieu ?» Et Jésus a dit ceci, il a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. » Comment on dit « le seul vrai Dieu ?» Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, on sait que pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu. Il faut connaître Jésus-Christ. Amen. Et on a vu beaucoup de choses dernièrement. Dans les 9 semaines précédentes, on a vu plusieurs noms que Dieu s'est donné même. On a vu qu'il est El Shaddai. Il est le Dieu qui est plus qu'assez. On a vu qu'il est le Dieu très haut. On a vu aussi qu'il est un Dieu qui a fait une alliance avec nous. Il faut connaître ce Dieu. Il faut le connaître d'une façon personnelle. On a vu qu'il est Jéhovah Jireh, celui qui voit et qui pourvoit. Est-ce que vous êtes content que Dieu voit nos besoins et qui pourvoit nos besoins? On a vu qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Mais aujourd'hui, nous allons voir que l'Éternel n'est pas juste celui qui voit et qui pourvoit et qui guérit, mais nous allons voir aussi que l'Éternel est le Seigneur, notre justice. Tout le monde est notre justice. Et puis, quand on parle de la justice, c'est quelque chose parce que nous vivons dans un monde qui est rempli d'injustices. Vous êtes d'accord? Moi, je suis content de vivre au moins dans un pays où on a un système de justice qui marche normalement assez bien. Hein, je dis assez bien parce que on a quand même... moi, je crois que notre situation ici en Amérique du Nord est beaucoup mieux que dans quelques pays. Il y a plein de pays où les polices, s'ils n'aiment pas ton visage, ils vont juste arrêter, te mettre en prison, pas vraiment de recours, pas vraiment un système pour vous protéger. Il y a beaucoup de sociétés où les gens sont considérés coupables jusqu'au moment qu'il s'est prouvé qu'ils sont innocents. Mais en principe, dans notre société, les gens sont supposés d'être considérés innocents jusqu'au moment qu'ils sont prouvés coupables, n'est-ce pas? Mais on sait que quand même, ça marche pas toujours. Et c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui que ça frotte, ça dérange beaucoup de gens de voir dans notre monde tant d'injustices. Et des fois, on a des cas qui sont célèbres, même les gens, ils vont voir à la télévision certains cas. On a quelques images. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cela? O.J. Simpson, hein? Je suis pas là pour dire s'il était coupable ou innocent. Vous avez peut-être entendu toute l'histoire, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas convaincus que la justice a été servi dans ce cas. Je suis pas là pour prononcer jugement, mais juste pour dire qu'on a vu la réaction sur la planète Terre lors de cet événement, n'est-ce pas? Les gens étaient comme, ah, c'est impossible, comment ça? Mais laisse-moi vous dire, c'est pas juste de temps en temps, ces choses arrivent régulièrement. Peut-être même juste cette semaine, vous avez vu l'image à la télévision. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est qui? Hein? Tout un scandale, n'est-ce pas? Encore, je ne suis pas ici pour parler pour ou contre les personnes, mais juste pour vous montrer aujourd'hui que quand on parle de la justice, c'est un sujet délicat parce que les gens sont dérangés souvent par les faits qui semblent être injustes. Ça, c'est Paris Hilton. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille des milliardaires qui sont les propriétaires de la chaîne d'hôtels Hilton. Et elle est célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. Je peux dire cela, par exemple. Vraiment. Mais elle s'est fait arrêter. Ça, c'est la photo qu'ils ont prise. Ça, c'est une photo de dossier criminel qu'ils ont pris quand elle s'est fait arrêter. Parce qu'elle s'est fait arrêter plusieurs fois pour avoir conduit après avoir consommé. Et puis, finalement, vous avez entendu l'histoire que elle était arrêtée une troisième fois, je pense, elle avait une sentence de 40 quelques jours en prison, puis elle a fait 3 jours et elle a été relâchée. Et là, tu m'en veux dire que le monde parlait. C'était un scandale. Les gens outragés, comment ça? Hein? Et tout le monde disait, ah, c'est juste parce qu'elle est riche et parce qu'elle est célèbre, les autres, en inconnu, aurait fait tout son temps. Mais il y a d'autres personnes à l'autre côté qui disent non, normalement les gens ne font pas vraiment du temps pour ça, ils vont juste être sous arrestation à la maison, donc c'est parce qu'elle est célèbre qu'elle est forcée à faire du temps. Donc il y a des gens qui crient injustice, injustice, injustice. On voit les photos, on a vu cela, elle est la prochaine si vous voulez changer d'image ici. Là, on peut presque pas voir, mais elle est dans l'auto, elle pleure parce qu'elle s'en va, parce que finalement, le monde était tellement outragé et scandalisé qu'ils ont décidé de la remettre en prison. Mais, laisse-moi vous dire, c'est pas juste aux États-Unis que ces choses arrivent, hein, les injustices. Hein, des fois, laisse-moi vous dire une chose, j'ai lu quelque chose juste l'autre jour, en Ontario, il y a des choses bizarres quand on parle de la justice qui arrive. Et j'ai lu quelque chose, qu'il y avait une femme qui travaillait pour une compagnie à Toronto, que lors de leur partie de l'année, je pense que c'était la partie à Noël, elle s'est enivrée, et puis l'employeur a offert un service de taxi comme opération Nez Rouge pour qu'elle ne conduise pas sous l'influence, etc., mais elle a refusé de profiter de ce service, donc elle est partie, et je pense qu'elle a eu un accident, je n'ai pas tous les détails, mais elle a été arrêtée. Et là, tu sais quoi? Elle a poursuivi sa compagnie en justice pour 300 000 $. Elle a gagné parce qu'elle a dit que c'est pas juste. Mon employeur aurait dû m'empêcher de conduire dans cet état. Mais elle a gagné 300 000 $. Oh, la justice. Hein? Donc. Mais c'est pas juste ça. Regarde, il y a une autre image. Est-ce que quelqu'un s'en souvient de ce visage ici? Hein, malheureusement, c'est un gars du Québec. C'est Simon Marchand qui est de Sainte-Foy. Il a fait 5 ans de prison. Et puis après 5 ans, ils ont déterminé qu'il était innocent. Et la province du Québec a dû payer pour le dédommager des millions et des millions de dollars. Pourquoi je te dis cela? C'est pas pour dire que le système de justice est pourri complètement, parce que comme je dis, je suis reconnaissant de vivre au Québec, reconnaissant de vivre en Amérique du Nord, où nous avons quand même des policiers que normalement, hein, on est protégé, n'est-ce pas? Normalement, on a vraiment les bienfaits, on peut profiter des bienfaits de notre système de justice, mais quand même, qu'est-ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde infecté par le péché, et même notre système de justice est infecté par le péché, n'est-ce pas? Mais regardons, bonne nouvelle! Tout le monde dit bonne nouvelle! La bonne nouvelle se trouve en Jérémie 23, verset 5. On parle de comment connaître le seul vrai Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe, quoi? Juste. Il régnera en roi et prospérera. Alléluia. Il pratiquera la quoi? La justice et l'équité dans le pays. La justice et l'équité. C'est ça que tout le monde veut, n'est-ce pas? Justice et équité. Dans le pays, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Donc, le nom dont on l'appellera, c'est l'Éternel, notre justice. Donc, vous savez quoi? Le nom de Dieu, c'est pas juste Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. C'est pas juste Jéhovah Jiré, l'Éternel qui voit et qui pourvoit. Mais son nom est aussi Jéhovah en hébreu, c'est Jéhovah Tsidkenu, qui veut dire l'Éternel, notre justice. C'est son nom. N'est-ce pas bon de savoir que notre Dieu est juste, équitable, il se trompe jamais, personne n'est condamné par hasard ou injustement. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Personne n'est pardonné injustement non plus. Il est juste, il est équitable, il est Jéhovah, Tsid Kenu, et ça devrait nous encourager ce matin. Que malgré les injustices que nous voyons régulièrement autour de nous, nous avons un roi qui va régner avec justice et équité pour toute éternité. Apocalypse 19, 11 dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec quoi? » On parle de qui? De Jésus. Jéhovah s'est tenu dans la chair. Il combat et il juge avec justice. J'aime beaucoup Ésaïe 33, verset 22, qui dit car l'Éternel est notre juge. Alléluia! L'Éternel est notre juge. Ça me fait penser à David. Vous vous rappelez? David, quand il avait péché, Dieu lui a donné le choix, soit de tomber entre les mains de la justice humaine, ou d'être jugé par Dieu lui-même, il a choisi le jugement de Dieu. Il dit, remets-moi pas entre les mains des hommes, parce que, ouf. Donc, Dieu est notre juge. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre quoi? Législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. J'aime ça. Il est notre juge. C'est-à-dire celui qui va prononcer jugement. Il est notre législateur, celui qui va écrire les lois, établir les lois en premier lieu. La loi de Dieu est parfaite. Et l'Éternel est notre roi. Et à part de ça, c'est l'Éternel, c'est lui qui nous sauve. La justice de Dieu sert à nous sauver, pas à nous détruire. La justice de Dieu, c'est une justice qui est parfaite. Parce que Dieu est parfait. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est parfait? Et on sait que Dieu, qui est Jéhovah Tsid Kenu, il s'est fait chair, il est devenu un homme, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a marché sur la planète Terre. Et en tant que juge, il a manifesté la volonté du Père. Et on a un récit en Jean chapitre 8, où on va voir juste pour quelques minutes ce matin, l'exemple de Jésus, qui est vraiment notre juge, législateur, notre roi et tout. Mais on va voir dans cette histoire la justice de Dieu, l'équité de Dieu manifestée dans une situation sérieuse. On va lire ici en verset 1, Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. OK? Est-ce que vous êtes d'accord que selon la loi de Dieu, l'adultère n'est pas une bonne chose? La Bible est claire là-dessus. Et n'oubliez pas que ici, ce sont des personnes qui vivent sous l'ancienne alliance et que selon la loi de Moïse que Dieu a inspirée, ceux qui commettent l'adultère méritent la punition de la lapidation ou la mort. C'était clair dans la Bible. C'était la loi de Dieu et c'était la loi est bonne. La loi est juste. Mais cette femme était surprise en adultère et plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Je me pose la question, « Comment est-ce que vous l'avez su? » Bonne question, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire. D'habitude, les jeunes commettent pas l'adultère dans le parc public, au marché public. Ils font ça en secret, n'est-ce pas? Donc, s'ils ont pris cette femme dans l'acte d'adultère, il y a quelque chose qui marche pas. Numéro 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc c'est ça, hein? Quand on parle de la justice, il y a toujours quelqu'un qui va accuser. Il y a un accusateur dans chaque histoire. Ainsi, les accusateurs, c'est les hommes religieux qui veulent, dans le fond, ils s'en fichent de la femme. Ils s'en fichent aussi de la loi de Dieu. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est détruire Jésus. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment offensés, ils veulent protéger la nation d'Israël de l'immoralité. Non, c'est pas leur but. Leur but, c'est pas de protéger la nation, de conserver la loi de Dieu. Leur but, c'est de détruire le Fils de Dieu. Donc, ils sont venus avec un esprit d'accusation contre Jésus. Et regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il n'a pas répondu tout de suite. Il pose la question et puis commence à écrire dans la poussière. Intéressant, Jésus, hein? Il fait des choses, des fois, on dirait un peu bizarres, mais laisse-moi vous dire, c'est pas bizarre, c'est la sagesse de Dieu en manifestation. Regarde qu'est-ce qui se passe. Il écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, et intéressant, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je ne sais pas. Peut-être il écrivait les noms des femmes. Hein? Isabelle, ou Rebecca, ou Rachel, ou... Je nomme un nom ici, que il n'y a rien de personnel. Peut-être il a eu une parole de connaissance, il écrivait les noms des personnes avec qui ces hommes ont commis l'adultère. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il a écrivé quelque chose. Il a demandé une question qui a touché le cœur. Et là, la conscience de chaque homme... l'accuser eux-mêmes. Ils sont venus pour accuser quelqu'un d'autre, mais à chaque fois qu'on pointe le doigt à une autre personne, savez-vous quoi? Il y en a trois qui pointent vers nous. N'est-ce pas? Jugez pas, et vous ne serez pas jugés, la Bible dit. Donc, c'est facile de pointer le doigt à eux autres. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Intéressant. Alors, c'est un relevé, et ne voyant plus que la femme. Là, c'est juste lui et Jésus. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit la justice parfaite de Dieu. On dirait, mais c'est pas juste, parce que légalement, elle n'a pas respecté la loi. Elle méritait la mort. Mais Jésus ne l'a pas condamné à la mort. Pourquoi? On va voir plus tard que c'est pas qu'est-ce que vous pourrez penser. C'est pas juste une attitude, bon, laisse faire. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Non, c'est très grave, c'est très sérieux, jusqu'au point où Jésus a dit, va et ne pêche plus. Parce que, qu'est-ce que nous allons voir? C'est que pour être juste, quelqu'un doit payer pour le péché. Donc, qu'est-ce que nous voyons, et on va voir plus tard, c'est que Jésus est en train de pardonner cette femme par crédit. Non, j'exige pas ta mort aujourd'hui. Mais il n'a pas fait ça comme ça. C'est comme si on irait au restaurant, et puis il y a quatre personnes qui vont au restaurant, et une personne dit, « Oh, c'est pas grave, pas besoin de payer. » Vous êtes mes invités aujourd'hui. Donc, les trois personnes m'ont dit, « Wow, c'est cool! » Bon, ils se lèvent, après le repas, ils quittent le restaurant. Monsieur qui a dit, « Vous êtes mes invités », s'il se lève debout et quitte le restaurant, sans régler la facture, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est pas une question qu'on dit, « Oh, c'est pas... mais vous êtes mes invités, allez-y, pas besoin de payer, et moi non plus, je paye pas non plus! » Non, eux autres, ils sont partis, et peut-être 5 minutes plus tard, le monsieur, il va se présenter à la caisse, et il va payer pour tous les autres. Amen? Quelqu'un doit payer. Et c'est ça qu'on va voir tantôt, c'est que quelqu'un avait besoin de payer pour le péché de cette femme. Quelqu'un avait besoin de payer pour l'adultère qu'elle a commis. Mais ce qu'on voit là-dedans, on voit le cœur de Jésus, on voit que Jésus, il est tellement bon. Est-ce que vous aimez Jésus ce matin? On voit premièrement que Jésus, notre juge, il est juste et miséricordieux. Il est juste et miséricordieux. Il y a un verset dans les psaumes. C'est vraiment un verset qui m'a touché beaucoup il y a beaucoup d'années. Et le verset en psaume 85, 10, dit ceci. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix. Quelques traductions disent la justice et la miséricorde s'embrassent. La justice dit quelqu'un doit payer. La miséricorde dit tu n'as pas besoin de payer. Comment est-ce qu'on peut marier ces deux idées, ces deux principes? Quelqu'un doit payer, tu n'as pas besoin de payer. La justice et la paix se sont rencontrées, se sont embrassées, mais c'est en Jésus qu'on va voir que la justice et la miséricorde se marient. Et parce que la justice et la miséricorde se marient, nous sommes sauvés aujourd'hui. Si moi, j'étais obligé de recevoir la justice, savez-vous qu'est-ce que j'ai mérité dans ma vie? L'enfer. J'étais coupable. Et vous? Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est que Dieu est tellement bon, il n'est pas juste, il est miséricordieux aussi. Romains 2, 16 dit, « C'est sûr qu'il paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc, Jésus est notre juge. Un jour, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va être juste dans ses jugements et aussi miséricordieux. Mais même les actions secrètes de votre cœur, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez soupçonné, tout ce que vous avez imaginé, toutes ces choses vont être jugées. Mais la bonne nouvelle, il va être juste et miséricordieux. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jacques 2, 12. Parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Moi, je sais que tout le monde aime ce verset-là, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, Jésus, notre juge, est juste et miséricordieux. Deuxième point qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que Jésus, notre avocat, nous défend avec compassion. N'est-ce pas bon de savoir que nous avons un bon avocat? Celui qui est juste, miséricordieux, il est là pour nous défendre. Il y a un verset dans la parole de Dieu, hein, 1 Jean chapitre 2, verset 1, qui dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Moi, j'aime ça. Je ne veux pas vous décevoir, mais moi, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 10 ans. 10 ans. Et depuis l'âge de 10 ans, là, j'ai 40 ans. Dans les derniers 30 ans, il m'est arrivé un couple de fois que j'ai péché. Ouais, juste un couple de fois. En troisième fois, là, parce que je viens de mentir. Mais que c'est bon, rassurant, de savoir que j'ai un avocat et que Jésus, mon sauveur, mon maître, il est là pour plaider mon cas devant le Père. Et il est là pour dire, Père, n'oublie pas, il est à nous, j'ai payé le prix. Il est innocent. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia! Donc, quand les autres sont là pour vous accuser, quand le diable vous accuse, il est toujours là pour faire ça, il est bon. Sachez que vous avez un avocat qui est toujours prêt à vous défendre, mais il vous défend avec compassion. Pourquoi? Parce que Jésus sait c'est quoi d'être tenté en toutes choses, mais sans avoir péché. Il y a Romains 8, 33 qui dit, « Qui accusera les élus de Dieu? » On sait que c'est Satan qui essaie de nous accuser. Il y a souvent des autres qui essaient de nous accuser. Malheureusement, même dans la famille de Dieu, des fois, il arrive les accusations. Jésus était parfait, mais il était... Qu'est-ce que les pharisiens cherchaient à faire? Ils cherchaient à l'accuser. Moi, je sais, il y a des personnes qui cherchent à m'accuser aussi, des fois. Ils vont écouter tout ce que je dis, comment je le dis, et boum, boum, boum. Bienvenue au leadership, c'est comme ça. Mais écoute, Dieu est mon juge, Jésus est mon avocat. Gloire à Dieu, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il se tient dans la brèche, il nous défend jour et nuit devant le Père. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Soulignez la phrase « sauver parfaitement » ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia, mon avocat est parfait. Il y a beaucoup de bons avocats dans le monde. Je connais des avocats chrétiens qui aiment Dieu et qui sont justes. Mais il y a beaucoup d'avocats croches aussi. C'est pas juste les avocats, hein? Il y a beaucoup de bonnes personnes justes qui travaillent dans les usines, mais il y en a qui sont croches. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont justes, mais il y en a qui sont croches aussi. N'est-ce pas? Mais Jésus est parfait! À 100% en règle avec Dieu le Père. Et ce que nous allons voir, on n'a pas terminé, c'est que cette justice dont Jésus représente, il nous l'a confiée aussi. Il nous a donné sa justice. Jésus, notre substitut, troisième point, a réglé notre compte pour nous. Je parlais des gars qui sont allés au restaurant et quelqu'un a dit « Je vais payer la facture ». Laissez-moi vous dire que Jésus a payé toute une facture pour nous. Nous avons mérité la mort. Jésus, notre substitut. Comment est-ce que Jésus était capable de dire à la femme prise dans l'adultère, « Je ne te condamne pas non plus. » C'est parce qu'il savait, « Vas-y, pas besoin de payer. Aujourd'hui, je paye par crédit. Dans peu de temps, ils vont me clouer à une croix. Mon sang va être versé, je vais être battu de verge, ils vont arracher ma barbe, ils vont cracher sur moi, je serai séparé d'avec le Père, je vais aller à l'enfer, mais je vais ressusciter. Et le compte va être payé. Jésus a payé, et il a payé cher. C'est pourquoi, mes amis, je pense qu'en tant que chrétien, on a besoin de faire attention. Trop souvent, on prend pour acquis le pardon et la miséricorde de Dieu. On a des choses qu'on fait qui sont pas corrects, et c'est comme, oh, ben, c'est pas grave, je vais le faire, et puis je vais juste demander pardon après. Je sais qu'il y a personne ici qui a fait cela. Moi, je l'ai fait, surtout moi, je m'en souviens de certaines périodes de ma vie, quand j'étais jeune, où j'avais certaines choses qui n'étaient pas en règle avec Dieu dans ma vie, dans mon comportement. Je faisais des choses que je savais dans mon cœur, c'est un péché. Je devrais pas faire cela. Mais à chaque fois que je voulais, quand ça me tentait de le faire, je me dis, bon, ben écoute, je sais que c'est pas correct, mais je sais que Dieu est bon, il est miséricordieux, il va me pardonner. Donc, je sais quand même, je vais demander pardon après. La pensée n'est jamais venue dans ma tête. Non, je sais que vous n'avez jamais eu une telle pensée. Mais, c'est sérieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si on continue à pécher volontairement, que là, c'est une situation grave. Le péché volontaire, c'est une chose. Tomber dans un moment de faiblesse, c'est une affaire. Mais la rébellion, la révolte et le péché volontaire continuel, ça, c'est une autre affaire. Je pense que c'est là où on va parler tantôt de la vraie repentance aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a réglé le compte pour nous. Verset 25 de Romains 3. Regardons cela. J'aime tellement cette version dans la parole vivante. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition. On parle de Jésus. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient les péchés de qui? Nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice, qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens, comme la femme prise dans l'adultère. Est-ce que vous voyez cela? Pourquoi? Il dit ici, les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus. D'autre part, il désirait justifier tous ceux qui plaçaient leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont la foi en lui. La miséricorde et la justice se sont embrassées à la croix. Jésus a dit, « Je suis miséricordieux, vous êtes pardonnés, mais moi je vais payer le prix. » Et ça coûte cher. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous voyez l'amour de ton Sauveur pour toi? Est-ce que tu vois jusqu'à quel point le fait d'être pardonné de nos péchés, c'est un don, c'est un privilège, c'est une joie, c'est... On ne devrait jamais, jamais, jamais fouler sous nos pieds la grâce de Dieu. En disant, oh, c'est pas grave, le péché. Oui, c'est grave. Le monde aujourd'hui, ils ne pêchent plus, ils ont juste les problèmes. Mais j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec ça. Est-ce qu'on peut appeler la chose par son vrai nom? C'est le péché. Et tout le monde, sans exception, incluant moi, je suis venu dans ce monde avec une nature pécheresse, mais voici la bonne nouvelle que je vous donne ce matin. C'est que je ne suis plus pécheur aujourd'hui. Parce que celui qui a pris ma place, mon substitut, il est devenu péché pour moi afin que je puisse devenir la justice de Dieu en lui. Il y a deux autres versets que je veux partager avec vous sur ce point. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Moi, je faisais partie des injustes. Lui, il était le seul vrai juste, n'est-ce pas? Afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Imaginez les pires des pécheurs. Regardons l'image qui est là. C'est qui ça? Saddam Hussein. Juste avant de mourir. Juste avant de subir le jugement de ses accusateurs. Il était là devant le tribunal. Les gens l'ont accusé. Bien sûr, il avait un avocat pour le défendre, mais malgré les défenses, il n'avait rien à dire qui pourrait le protéger. Et la dure réalité, c'est que Saddam Hussein, il est mort à cause de ses péchés. Mais imaginez pour une minute, si vous étiez là, présent, combien de vous auraient été prêts à dire, « Attends, 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 attends! » Juste une minute. Moi, j'ai à cœur de prendre sa place. Laisse-moi mourir à sa place. Ou, ça c'est une chose, combien de vous êtes parents? Pensez à votre fils, votre fille. Combien de vous aurez dit, non, arrêtez! Un instant! Prends mon fils. Laisse mon fils mourir à sa place. Moi, je ne serais pas capable. Je pense à Andrew, Michael, Zachary, John, Lorraine. Prends la place de lui. Mais laisse-moi vous dire une chose. Quelqu'un a pris sa place. Pas dans les naturels, mais dans l'esprit. Il y a un homme qui a pris la place de chacun de nous.
C'est Jésus. Il a pris notre place. Regardons le prochain verset. La Bible dit, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Parle de Barabbas. Vous vous rappelez, Pilate a dit, hey, écoute, moi, je trouve pas du mal à cet homme. Si tu veux, on a une tradition à Pâques, on relâche toujours un prisonnier. On peut vous relâcher quelqu'un. Ils ont dit, ok, bon, relâche pour nous Barabbas, qui était un meurtrier. On veut que Barabbas soit libéré et on veut que Jésus meure. On veut que le criminel soit délivré, mais on veut que Jésus, le saint, le juste, le fils de Dieu, on veut qu'il souffre, on veut qu'il meure. Et savez-vous quoi? C'est pas juste les Juifs qui ont fait cela, nous avons fait cela. Et Jésus a pris notre place. Alléluia. Et parce qu'il est mort, et parce qu'il est ressuscité, maintenant, Jésus est devenu ce que nous étions, les pécheurs séparés d'avec Dieu, afin que nous puissions être ce qu'il est, la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, il faut qu'on réalise, oui, on était des pécheurs, mais si on reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur, on devient la justice de Dieu, et Dieu nous accorde sa justice, et nous sommes en règle avec Dieu. Et juste vite, vite, comment vivre dans la justice de Dieu? Numéro un, recevez le don de la justice par la foi. Savez-vous quoi? 2 Corinthiens 5, 21 a dit, on n'a pas besoin de retourner, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui la justice de Dieu. Mais savez-vous que cette justice est un don? Jésus a payé le prix. Et on a besoin de recevoir ce don. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Numéro 2, ne donnez plus place à l'accusateur. Laisse pas l'ennemi dire, mais toi, tu es un méchant pécheur. Non, si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus pécheur, vous êtes la justice de Dieu en Jésus. Apocalypse 12, 10, on parle de l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Savez-vous quoi? Une fois que j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai laissé Jésus prendre ma place à la croix et j'ai accepté son don gratuit de la justice, maintenant l'ennemi n'a plus rien à dire sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai un juste juge et j'ai un avocat qui est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Puis finalement, numéro 3, régnez dans la vie en sachant que vous êtes aussi juste que Jésus. Comment ça? Oui, laisse-moi vous dire une chose. Voici l'équilibre que je veux qu'on trouve aujourd'hui. Je veux que vous soyez convaincus que sans Jésus, vous êtes un pécheur pourri. Mais en Jésus-Christ, vous êtes la justice de Dieu en Jésus. Jésus a dit, bon, je suis parfait, je suis saint, je suis innocent, je te donne mon innocence et je prends ta culpabilité. Il a pris ma culpabilité pour un peu de temps à la croix, il est allé à l'enfer, mais quand il est ressuscité, il nous a offert sa justice. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. C'est pas tout le monde. C'est ceux qui reçoivent. Tout le monde dit ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Mes prières peuvent être aussi efficaces que les prières de Jésus. Vos prières peuvent être aussi efficaces que les prières de Jésus parce que vous êtes en Jésus et sa justice est devenue la vôtre. Si vous avez reçu l'abondance de la grâce. Jean-Charles, si tu peux venir ce matin. Si vous êtes content que l'Éternel, son nom, c'est Jéhovah, c'est connu l'Éternel, notre justice. Est-ce que vous êtes content que la miséricorde et la justice se sont mariées en Jésus? On va juste, pour une minute, je vous invite. En fait, je supplie, bougez pas pour les prochaines quelques minutes. Maintenant, c'est le moment le plus important de toute la réunion. Pourquoi? Parce qu'on a entendu la parole de Dieu. On a entendu la bonne nouvelle. C'est que Jésus est un juge qui est juste. Et miséricordieux. C'est un avocat qui nous défend avec compassion. et que Jésus est un substitut qui a réglé notre compte. Il a pris notre place. Mais moi, j'ai pris une décision et moi, je crois que ça serait injuste pour moi de ne pas le faire. De laisser partir les jeunes aujourd'hui sans nous donner l'occasion de recevoir l'abondance de la grâce. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous. Et la question que je vous pose, êtes-vous prêt à rencontrer le juste juge? Posez-vous la question. Jésus est un juge qui est juste, miséricordieux, mais juste. Qu'est-ce qu'il veut faire, c'est vous pardonner et en fait, il a déjà pardonné vos péchés. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, c'est vous accorder la vie éternelle. Il ne veut pas que vous soyez jugés pour vos péchés. En fait, il y a un verset, et je pense que je l'ai mis sur le PowerPoint, Jean 5, 24. Est-ce que c'est là? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici la bonne nouvelle, regardez-moi tout le monde. Jésus vous aime et il veut vous donner la vie éternelle. Il ne veut pas que vous soyez jugés pour vos péchés. Il y a trois choses qu'il faut savoir. Premièrement, tu es coupable et sans défense devant Dieu. Si tu n'as pas encore reçu personnellement Jésus-Christ, tu es coupable. Moi, j'ai été coupable. Le monde entier, Romains, nous le dit clairement, Romains chapitre 3 et verset 23 dit, « Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. » Laisse-moi vous dire, tu es coupable et sans défense. Comme Saddam Hussein était sans défense devant ses accusateurs, nous sommes sans défense. Oui, mais Dieu, je vais à l'église à toutes les semaines. Ou dans la Bible, c'est marqué qu'aller à l'église peut vous sauver. Mais je prie. Où est-ce que c'est marqué que prier peut vous sauver? La vérité, c'est que le péché nous a séparés d'avec Dieu. On est séparés. Et c'est le péché qui nous a séparés. Il y a des gens, oui, mais on peut essayer de faire les ponts avec la religion, avec les bonnes intentions. On peut essayer de traverser et atteindre Dieu avec des bonnes pensées, être gentil, sympathique. Mais la Bible est claire. Il n'y a personne qui peut prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Donc la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que seulement Jésus peut nous sauver. Seulement Jésus. Il y a un verset de la parole qui dit, Romains 3, 23, 4. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Regarde ça. Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. La générosité divine, on a vu cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Regardons la prochaine image ici. C'est Jésus qui est le seul moyen, le seul chemin pour nous ramener à Dieu. Mais on peut être là, à ce bord de la croix, sans être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder la croix et dire « Oui, je crois !» que Jésus est le seul chemin. Mais la Bible dit ceci. Même le diable croit que Jésus est le seul chemin, mais n'est pas sauvé. Croire, c'est pas assez. Il faut faire quelque chose. C'est pourquoi le troisième point, c'est ceci. Il faut recevoir personnellement le don de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut recevoir personnellement. Si j'offre un don à Gisèle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle a besoin d'étendre la main et la recevoir. Et si on regarde cela, on peut regarder le pont toute la vie, pendant toute notre vie, mais au moment donné, il faut prendre une décision de traverser le pont. Il faut prendre un engagement de recevoir Jésus. Ce matin, je vous pose la question, où êtes-vous? De quel côté de la croix est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes toujours dans la mort, la rébellion, le péché, la misère? Ou est-ce que vous avez pris une décision de traverser le pont en recevant le don de Jésus pour recevoir la vie éternelle? Il y a des personnes qui ont fréquenté Jésus pour des années. Regardez-moi droit dans les yeux. Il y a des gens qui ont fréquenté Jésus, ils ont fréquenté les églises même pendant des années sans jamais s'engager à Jésus, sans jamais vouloir se marier avec lui. Croire qu'il est le seul chemin, ce n'est pas assez. Il faut prendre une décision. Et c'est pourquoi il y a juste un couple de choses que je vais vous inviter à faire aujourd'hui. Premièrement, accepte que tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Première chose que vous avez besoin de faire aujourd'hui, c'est d'accepter que Jésus a pris ma place. Il faut que j'ai un sauveur, je ne peux pas me sauver moi-même. Numéro 2, tourner vers Dieu et changer la direction de ta vie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, même à Drummondville, qu'ils aient à se repentir. Savez-vous que ceux et celles à Drummondville ont besoin de se repentir aussi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ceux qui sont de ce côté de la croix, souvent, on court dans le mauvais sens. On a besoin de se repentir, dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la croix. Et je reçois la croix aujourd'hui dans ma vie. » Puis, confesse avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur, en croyant du cœur qu'il est ressuscité des morts. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la... quoi? À la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, de devenir la justice de Dieu en lui. La chose finale que je veux vous montrer, c'est qu'il faut être prêt à professer Jésus publiquement devant les autres. Jésus l'a dit, « Je suis le seul chemin, je suis la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Mais Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Acte 2, 38 dit aussi, un autre dernier verset qui dit, « Pierre le dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Est-ce que c'est clair aujourd'hui? Combien de vous êtes content que Jésus a pris notre place à la croix? Et aujourd'hui, je vous aime assez pour vous donner une occasion, si vous êtes de ce côté de la croix, de traverser, de prendre le pont de la croix et d'arriver à la vie éternelle. Vous pouvez partir d'ici sans aucune doute, sachant que vous êtes sauvés de vos péchés, que vos péchés sont lavés et purifiés. Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que dans votre cœur, vous savez que vous n'avez pas encore traversé le pont? Peut-être vous fréquentez Jésus depuis longtemps. Peut-être vous dites, « Ah, mais je crois en Jésus depuis toute ma vie, depuis mon enfant. » C'est pas assez. Il faut prendre une décision personnelle pour le recevoir afin d'être justifié par la foi. Si vous partirez aujourd'hui et en quittant le bâtiment, votre cœur arrête de battre et vous tombez mort, savez-vous sans aucun doute que vous allez au ciel, que vous êtes juste devant Dieu? Sinon, aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'occasion de recevoir Jésus. Avec tous les yeux ouverts, parce que je veux vraiment que tout le monde comprenne que si je confesse Jésus devant les hommes, il va me confesser devant les autres. Aujourd'hui, combien de vous êtes prêts? Moi, j'aimerais juste avant. Combien de vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Juste levez la main. Sans aucune doute. Vous allez baisser la main. Là, je vais compter à trois, tout simplement. Je vais taper ma main. Quand je fais, c'est votre moment déclencheur où vous allez prendre une décision ce matin. Je vous lance la balle dans votre camp. Combien de vous, ce matin, vous savez que vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ, d'accepter le don gratuit de la justice? Vous voulez être sûr et certain, sans aucun doute, que vous êtes sauvé de vos péchés. Je vais compter à trois quand je tape ma main. Si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, juste levez la main. Vite, vite. Un, deux, trois. Vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne? C'est important. Alléluia. Pense pas à ce que les autres vont dire ou penser. Moi, j'ai un devoir ce matin, c'est juste de vous présenter la bonne nouvelle, de lancer la balle dans votre camp. Et peut-être tout le monde ici l'a déjà fait, mais sinon, je lève la main vite, vite. Je dis, oui, j'ai besoin de savoir que Jésus est dans ma vie. Amen. Il y a une personne ici. C'est bon parce que ça prend du courage, monsieur. Et le fait que tu n'as pas peur de dire devant les autres que tu veux recevoir Jésus, c'est important. Aujourd'hui, tu es en train de dire, oui, Jésus, j'accepte que tu as pris ma place. Comme Saddam Hussein était prêt à mourir, moi aussi, j'étais mort dans mes péchés, mais j'accepte ton sacrifice pour moi. Donc, je vais te demander juste tout simplement, si tu peux juste venir avec moi, j'aimerais juste prier avec toi ici en avant. Ça va prendre, je sais que ça prend du courage, mais c'est important aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui? Ça vaut le pain. Ton nom? Gaëtan, je suis content que tu es venu. Tu sais quoi? La Bible dit que tous les anges au ciel se réjouissent si un pécheur se répand. Et aujourd'hui, on a une personne de plus qui a traversé le pont. Amen. Et j'aimerais prier avec toi. Et est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? On va prier avec Gaëtan. Je vais juste te demander de prier cette prière après moi. On a lu le verset, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aimerais qu'on prie cela ensemble, ok? Donc juste répète ceci après moi. Merci Père Céleste. Je viens à toi, au nom de Jésus. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, d'un substitut. Je confesse avec ma bouche aujourd'hui que Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur, mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour lui tous les jours de ma vie. Je me repens. Je change la direction de ma vie pour suivre Jésus. Et je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité et que je suis maintenant la justice de Dieu en Jésus. Mes péchés sont pardonnés et je suis une nouvelle personne, une nouvelle vie a commencé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.